The following are assembly instructions for a day trip at IKEA this Easter. Take 8 plump plant balls at least, and one bed that doubles as a bouncy castle. Add free 45-minute room planning sessions, as many activities for kids as possible, and add one extra slice of dime cake. Combine all together and you have the perfect day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
En fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu le temps de faire le deuil de lui-même. Mais on va voir que Allah, subhanahu wa ta'ala, d'une manière très subtile, très douce, c'est lui-même qui va l'accompagner dans son deuil.
Tu peux être fatigué physiquement, tu peux perdre des gens, mais quand tu perds l'espoir, c'est le pire. Il n'y a pas pire, en fait, comme sentiment.
Il lève les mains et dans son instinct spirituel, il parle avec Allah, la meilleure des thérapies de l'univers, que même les animaux et les plantes, ils pratiquent. Parler avec Allah. Donc il est en train d'indiquer, le prophète Sassim, que l'amour, il fait partie du risque. Or, le risque, mes frères et mes sœurs, il a été déjà prédestiné par Allah Azza wa Jal. Donc, votre amour, si vous le cherchez, vous allez le trouver si vous en faites les causes.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Deux êtres merveilleux se sont aimés, puis se sont quittés. Pour la seconde et dernière partie de notre conversation, Farid et moi revenons sur la manière dont notre prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a vécu les semaines qui ont suivi le décès de son épouse adorée, Khadija, radiallahu anha, qu'Allah l'agré. La peine fut immense et les épreuves de plus en plus grandes. Mais comme toutes les belles histoires d'amour, cette romance nous offre des enseignements qui perdurent encore dans le temps, à savoir que la douleur est humaine et que même le meilleur d'entre nous a connu une période où il s'est senti dépossédé de tout. Que le deuil est extrêmement difficile, mais qu'avec Allah à nos côtés, rien ne peut nous arrêter. Et enfin, que l'amour en notre Créateur dépasse la mort et renforce les liens de ceux qui s'aiment très fort. Sans plus tarder, je vous laisse savourer la suite et fin de notre discussion et demande sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir toutes les unions, celles déjà célébrées depuis une ou plusieurs années et celles qui sont en chemin, mais déjà inscrites dans les destins de chacun. Je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse écoute.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Farid, comment tu vas?
Madina, tout va bien. Wa alaikum salam, tout va bien ma soeur. Alhamdulillah, et toi de ton côté?
Ça va très très bien. Écoute, on s'en est un peu parlé en off, mais on se revoit suite à la diffusion du premier épisode. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter. Il y en a eu beaucoup. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Et le retour ont été très positifs, si ce n'est dithyrambique à ton égard, Farid. Donc, je te remercie beaucoup. Ça a beaucoup plu. Et c'est un bonheur de ramener de l'amour dans les foyers à travers les deux meilleurs représentants de l'amour que sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre maman Khadija radhiyallahu anha.
Alhamdulillah. Bah écoute, j'en suis honoré, hein. Si Allah m'utilise pour être un passeur de connaissances, de savoir utile, j'en suis honoré. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. De même. Mais écoute Farid, on va poursuivre notre histoire, avec si tu le veux bien. Bon, la semaine dernière, quand on s'est arrêté à un moment crucial. C'est le moment de la mort de Khadija, qu'Allah l'agré. Notre maman Khadija, un moment difficile dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point que notre mère Khadija, elle est décédée en l'an 619, soit 10 ans après la révélation. Et cette année-là, on l'a appelée l'année de la tristesse. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que Tu sais, juste je fais une toute petite interlude, mais une fois je discutais avec une amie et son mari lui disait je comprends pas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré par exemple quand son fils Ibrahim est décédé, alors que bah c'est le prophète, donc il est censé savoir qu'il y a un paradis, donc pourquoi il pleure? Et ça m'a cette question elle m'a tu vois, elle m'a hébété, en fait. Elle m'a hébété, je me suis dit, ben, on a le droit de pleurer. Enfin, et justement, c'est la preuve que tout le monde a le droit de pleurer. Justement, c'est une ouverture à la tristesse. Et moi, je le vois aussi comme ça, le fait de l'appeler l'année de la tristesse, c'est qu'on a le droit d'être triste dans ces moments-là. Mais je te laisse me dire, nous en dire plus.
Mashallah. Bah écoute, déjà, tu sais, tu m'avais envoyé un petit peu ce qu'il fallait traiter, mais subhanallah, ma soeur, sache que toi, tu m'avais pas parlé d'expliquer l'année de la tristesse, mais moi, c'était la première chose que je voulais faire.
Non.
Donc, tu vois, on est en total accord,
Takbir.
alhamdoulilah. Donc, c'était la première chose que je voulais éclaircir.
Alhamdulillah.
Après, par rapport à ce que tu viens de dire, Madina, c'est très important. Parce que justement, dernièrement, il y a eu une polémique, c'était d'ailleurs à travers les réseaux sociaux, où certains ont mis en avant le fait que parfois on parle du prophète sur ça, mais on dit qu'il faut pas oublier qu'il est un homme. Et certains n'ont pas accepté qu'on utilise cette phrase. Bon, après, je comprends que certains abusent avec cette phrase, mais il est important de le rappeler. On ne peut pas étudier sa vie, le prendre comme modèle, si on n'a pas conscience qu'avant tout, il est un être humain. Un être humain avec des sentiments. Ça, c'est important. Même s'il est le meilleur des hommes, qu'il a été choisi par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer le chemin, il n'en reste pas moins un homme avec des sentiments et sa sensibilité. Et d'avoir conscience de cela va nous permettre justement de mieux appréhender le modèle et de mieux comprendre justement pourquoi dans certaines situations il a eu telle ou telle réaction. Donc ça, c'était un petit peu pour rebondir par rapport à ce que tu avais dit, c'est important. Maintenant, pour ce qui est de l'année de la tristesse, ce qu'on appelle en arabe Aam el-Huzn, donc l'année de la tristesse. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Alors, avant d'indiquer pourquoi on l'appelle comme ça, il faut savoir que les Arabes, à l'époque du prophète, ils n'ont pas de calendrier. Ils n'ont pas de date fixe auxquelles ils vont se référer. Mais eux, ils se basent plutôt par rapport à des événements importants qui se sont déroulés. Par exemple, on a tous entendu parler de ce qu'on appelle la Aam el-Fil, l'année
De
de
l'éléphant.
l'éléphant. Cet événement où le roi Abraha a voulu détruire le Kaaba, mais Allah subhanahu wa ta'ala a détruit son armée en retournant l'éléphant avec les oiseaux. On retrouve cela dans la sourate el-Fil. Donc les Arabes, ils n'avaient pas de datation précise. Mais ils se référaient à des événements importants qui ont eu lieu. Alors, ça, c'est important aussi, entre autres, parfois, pour, tu sais, Madina, des fois, savoir qu'il y a des âges qui sont mentionnés dans les textes, comme des hadiths ou autres, et les âges ne sont pas forcément justes. C'est toujours des âges
Tout à
approximatifs,
fait.
puisqu'ils n'avaient pas de calendrier, ils ne pouvaient pas connaître leur propre âge. Et ça, je ne vais pas ouvrir la parenthèse ici, mais il y a une grosse polémique sur l'âge de Aïcha quand elle s'est mariée. Mais on ne peut pas prendre son âge comme référence puisqu'il n'y avait pas de datation, il n'y avait pas de calendrier.
Et
Donc
l'âge de
ça reste
Khadija, c'est pareil aussi,
approximatif.
hein. Je me
Tout
permets de
à fait.
rajouter, mais encore une fois, dans le livre
Oui.
que j'ai lu, on le dit, et je me suis dit, c'est la première fois que je l'entends, parce que c'est devenu un argument, ça, de dire, bah attends, le prêtre SLM, il avait 15 ans de moins, il avait 15 ans de moins, et donc du coup, en fait, on se crée tout un storytelling autour de ça, alors qu'en fait, on n'est même pas sûr. Et je me suis dit, mais, subhanallah, enfin, parce que ça m'a fait bizarre, en fait, de me dire, ah, c'est pas une certitude. Et je me suis dit, mais pourquoi ça te... Enfin, pourquoi ça te touche tellement? C'est qu'on en a trop fait un truc hyper solide, hyper. Alors qu'en fait, prenons déjà la parole d'Allah comme quelque chose de très 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 solide. Méditons dessus. Je t'assure que déjà ça ira au niveau de. On sera très très solide déjà en nous-mêmes. Alhamdoulilah, tu vois. Mais je trouve que c'est super que tu le dises là parce que moi, avant de lire cet ouvrage-là, je ne le savais pas.
Oui, donc là, il est approximatif. Même Khadija, radhiallahu anha, beaucoup de savants, en fait, ils disent 40 ans, c'est ce qui est indiqué, mais c'est un indicateur. Mais beaucoup disent, elle n'avait peut-être pas 40 ans, elle avait sûrement un peu moins.
Oui, c'est ce que
Parce
j'ai lu.
que pour la femme, on sait très bien, voilà, qu'arriver à un âge, après, il est difficile d'avoir des
Tout
enfants.
à fait.
Or, elle en a eu
Six,
6
ouais, avec
avec
moi,
le
c'est
prophète,
SLM.
donc, voilà.
Donc à partir de là, ils disent 40 ans, c'est un indicateur, ça veut dire qu'elle elle avoisinait cet âge-là. Mais de dire qu'elle avait 40 ans pile, non. Donc voilà, ça c'était pour comprendre comment fonctionnaient les Arabes et pourquoi d'ailleurs on a des appellations comme l'année de l'éléphant ou, comme on vient de mentionner maintenant, l'année de la tristesse. Ben, l'année de la tristesse, elle est liée à un contexte. Souviens-toi, on en a parlé la dernière fois, il y a eu ce qu'on appelle l'embargo de 3 ans. Il a duré environ 3 ans. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les gens de son clan, il y avait Khadija aussi, son épouse qui était avec lui, ils ont été mis au ban, ils ont été exclus de la ville de la Mecque, donc ils vivaient dans les faubourgs de la Mecque, dans le désert, sans avoir accès à l'eau, sans avoir accès aux relations sociales quelconques, ni nourriture, ni rien qui leur parvenait. Donc 3 ans de disette, de famine, et des temps très difficiles. Après ces 3 ans d'embargo, quand l'embargo fut levé, et qu'ils ont eu la permission de revenir à l'intérieur de la Mecque, eh bien, des personnes telles que Abu Talib, l'oncle du prophète, ou Khadija, qui étaient des personnes quand même avancées dans l'âge, ils ont beaucoup moins supporté cet embargo, qui a eu un impact très lourd et très dur sur leur personne, notamment d'un point de vue physique. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que Abu Talib, il va décéder quelques temps après l'embargo. C'est lui qui va décéder le premier. Et après, il y a une divergence à savoir est-ce que c'est quelques semaines ou quelques mois après, mais en tout cas dans un laps de temps très court. C'est Khadija Radhiyallahu qui, à son tour, va décéder. Donc voilà, dans un laps de temps très court, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va perdre les deux personnes qui lui sont le plus chères au monde. Ça, c'est d'un point de vue personnel. Parce qu'on va beaucoup parler de la notion de personnel du prophète, mais aussi de son côté mission. Il faut faire la différence entre les deux. Là, on parle d'un point de vue personnel. Il perd les deux personnes qui lui sont le plus chères au monde. Abu Talib, qui a été un père pour lui, il l'a recueilli alors qu'il était un enfant. Il l'a élevé. Il s'est occupé de lui comme son propre fils. Il s'est occupé de lui comme un vrai père. Et plus que ça, même arrivé à l'âge adulte, Abu Talib, il était toujours proche et toujours un soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, c'était l'amour de sa vie. C'était sa femme. C'était la personne avec qui il passait le plus de temps. Dans son existence, si on devait calculer le nombre d'heures, la personne avec qui il a passé le plus de temps, c'était Khadija Ar-Rihana. Ils étaient très très proches, très fusionnels. Et la plupart des journées, ils les passaient ensemble. Elle décède. Donc d'un point de vue personnel, il est très affecté. Mais pas que. Il y a autre chose aussi. C'est d'un point de vue de sa mission prophétique. Parce qu'au-delà d'être des personnes qui sont chères à son cœur, en plus de cela, c'était des personnes qui ont été un soutien dans sa mission. Abu Talib, il a été le principal soutien politique. D'un point de vue politique, le prophète, quand il fait la prédication à la Mecque, les autres chefs de la Mecque veulent l'empêcher de faire sa prédication. Hein, c'est un peu la liberté d'expression, on veut lui couper. Abu Talib, il va défendre cette liberté d'expression du prophète. Et il va faire face aux autres chefs de Quraysh en leur disant, moi je défends mon neveu. Et chez la tradition des Arabes, il y a une tradition tribale qui fait que quand le chef d'un clan prend la défense d'un de ses membres, les autres ne peuvent pas l'attaquer. Parce qu'il est sous la défense du clan en entier. Donc il a la protection, le prophète, de son clan et notamment de Abu Talib. Ce qui fait que les autres ne peuvent rien faire contre lui, si ce n'est essayer de lui mettre des petits pics de temps en temps. Il perd ce soutien-là, donc il perd son soutien politique déjà. Ce qui veut dire que maintenant il est à la merci des autres chefs de la Mecque. Et ça va dépendre, on va le voir, on va en parler dans quelques minutes, de qui va reprendre le commandement du clan. Est-ce que c'est quelqu'un de bienveillant vers le prophète, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va être plutôt un ennemi déclaré de l'islam et un ennemi du prophète, on va voir ça après. Donc il perd son soutien politique. Et en plus, il perd son soutien moral et financier principal à travers Khadija Radhiyallahu Anha. Ça, il faut le rappeler. Au-delà d'être son épouse, qui lui a donné de l'affection, un amour, ses enfants, elle a été aussi dans la mission prophétique, dans l'islam, elle a été la première résistante. On en a parlé la dernière fois pour le blocus. Elle a été le principal soutien financier. Si on devait faire un classement dans les soutiens financiers accordés au prophète, en numéro 1, c'est Khadija. En numéro 2, c'est Abou Bakr. Mais en numéro 1, c'est Khadija.
Même jusqu'à
la fortune, elle y est passée.
Ah oui, d'accord. Parce que ça, c'est pareil. On parle beaucoup de la fortune d'Abou Bakr et à quel point il l'a mise à disposition de la mission prophétique. Mais tu vois, je ne pensais pas que là-dessus, Khadija, elle, entre guillemets, elle le dépassait, quoi. Parce que, encore une fois, ce n'est pas ce qu'on entend le plus souvent, quoi.
Alors, parce que quand je dis dépasser, et là, c'est important, parce que très souvent, nous, on a toujours une notion de...
Des chiffres.
De quantité. Oui. Voilà. C'est la qualité. C'est la qualité. Abou Bakr, d'un point de vue de la quantité, il est l'un des numéros 1. Attention, il y en a d'autres aussi. Si on parle d'Abdurrahman ibn Aouf, le compagnon, il n'est pas loin d'Abou Bakr. Othman ibn Affan aussi. Attention, on est vu d'un point de vue de la quantité. Mais d'un point de vue de la qualité, quand je parle de la qualité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle une fortune a été dépensée. Pour la religion, c'est Khadija Ragana. Parce que Abou Bakr, c'est après l'Hijr que toute sa fortune va disparaître. C'est après l'Hijr. Khadija Ragana, déjà bien avant l'Hijr, juste après le blocus, toute sa fortune, elle y est passée. Donc, elle a investi beaucoup plus vite que Abou Bakr ou d'autres. Donc oui, si on devait faire un classement, c'est mon avis personnel, mais je le soutiens et je le soutiendrai avec des arguments. Khadija radhiyallahu anha, elle est en numéro 1. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, hyper. Les deux personnes qui lui sont le plus chères au monde, ça va l'affecter d'un point de vue personnel, mais hyper aussi ses deux principaux soutiens liés à sa mission prophétique. Voilà pourquoi cette année, elle a appelé l'année de la tristesse.
Est-ce que... Tu vois, c'est très fort ce que tu as dit. Et quand on. Vraiment, quand on prend le temps d'écouter tout ce que tu dis, on se dit, mais oui, je comprends que ce soit appelé l'année de la tristesse, parce qu'effectivement, c'est des piliers dans une vie qui ne sont plus là. C'est dur. C'est vraiment. Moi, j'avais cette douleur de. Mais. Enfin, tu te demandes, tu fais comment pour te relever, quoi. Et justement, c'était ça ma deuxième question. C'est. Comment est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a traversé son deuil? Est-ce qu'il est parvenu, du coup, à faire son deuil? Parce que, tu sais, de plus en plus, maintenant, on entend, tu sais, tu fais jamais vraiment ton deuil. C'est, tu vis avec, c'est une douleur avec laquelle tu vis. Donc, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a traversé son deuil? Et puis, est-ce qu'on peut en tirer des conseils, des outils pour accompagner nos frères et sœurs qui traversent des moments aussi difficile.
Tout à fait, Madina, tout à fait. Première chose importante, je vais m'exprimer là d'une façon, mais je vais bien l'expliquer. En fait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas eu le temps de faire le deuil. Il n'a pas eu le temps de le faire de lui-même. Mais on va voir que Allah, subhanahu wa ta'ala, d'une manière très subtile, très douce, c'est lui-même qui va l'accompagner dans son deuil. C'est Allah qui va lui faire son deuil sans que lui ne s'en rende compte. Et à partir de là, on va en tirer des enseignements. Puisque si Allah il a agi de la sorte, c'est qu'il y a une sagesse derrière ça et qui va être utile pour toutes les personnes qui sont dans le deuil. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle à suivre, dans son deuil, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des orientations et des choses bien précises. Alors quand je dis qu'il n'a pas eu le temps de faire le deuil, pourquoi? Parce que quand Abu Talib il meurt, celui qui prend la tête du clan des Beni Hashim, c'est son oncle Abu Lahab. Or, Abu Lahab, on le sait pertinemment, c'est un ennemi de l'islam. Donc lui, quand il est à la tête des Bani Hashim, il va parler avec les autres chefs de Quraysh et il va leur dire « Moi, maintenant que je suis le chef des Bani Hashim, mais je m'en lave les mains. Faites ce que vous voulez de lui. Vous voulez l'assassiner? Assassinez-le. » Et c'est à partir de ce moment-là que Quraysh, ils vont commencer à manigancer des tentatives d'assassinat envers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chose qui n'existait pas du temps de Abu Talib, pour bien comprendre aussi le soutien de Abu Talib. Donc Abu Lahab, voilà, il ouvre la porte pour l'assassinat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas le temps de faire le deuil. Faut qu'il trouve une solution liée à cette problématique où les autres chefs de Quraysh, maintenant, peuvent l'attaquer
à tout moment.
Sans aucun mal, en toute impunité. Il y a aussi la pression de Quraysh maintenant qui va s'accentuer. Abu Talib n'est plus là. Avant, ils allaient voir Abu Talib, ils discutaient avec lui un petit peu pour calmer les choses, il les calmait, etc. Maintenant, c'est fini. Donc, il y a la pression de Quraysh qui est en train d'augmenter aussi derrière. Et à ce moment-là, le prophète, vu qu'il est abandonné à l'intérieur de la Mecque, il va commencer la prédication à l'extérieur de la Mecque, chose qui n'existait pas avant. C'est la première fois, c'est là où il va commencer. Et là, il passe un stade dans les niveaux de la prédication, on apprend ça dans la Sira. La première phase, c'est la phase qui est la prédication secrète. Après, il y a la prédication publique à l'intérieur de la Mecque. Et enfin, après, il y a la prédication extérieure qui va se faire en deux phases, dans la péninsule arabique, puis finalement, à l'extérieur de la péninsule arabique, lorsqu'il va envoyer les missives aux différents gouverneurs des nations avoisinantes de l'Arabie. Donc là, il commence sa prédication extérieure. Il est obligé, il est contraint de le faire. Et il va aller chercher de l'aide à Taïf. On connaît tous l'événement de Taïf. Donc il va à Taïf et il va être très mal reçu. On va le lyncher. Il va ressortir en sang. Et il va même être humilié d'un point de vue des paroles et des actions à son encontre. D'ailleurs, Aïcha, son épouse, elle lui a dit une fois... Ô messager d'Allah, y a-t-il un jour plus dur, plus difficile pour toi que le jour de la bataille de Uhud? À chaque fois que je lis cette question, je me dis, mais comment elle est pertinente, Aïcha, c'est incroyable. Elle a une intelligence, là je ne parle pas de sagesse, là je parle vraiment d'intelligence, de perspicacité. Elle lui a pas dit, par exemple, « Oh, messager d'Allah, est-ce qu'il y a un jour plus dur pour toi que la mort de Abu Talib et de Khadija ?» Elle lui a pas dit ça. Pourtant, c'est quelque chose de dur. Non, parce que là, elle veut pas le toucher d'un point de vue personnel. Elle sait que c'est un être humain qui a des sentiments. Non. Donc cette fois-ci, elle va l'orienter plutôt dans son rôle de prophète, dans son rôle de mission. Et là, c'est très pertinent, parce que cette fois-ci, il n'y a plus de place aux sentiments. C'est lié à la révélation. C'est lié aux décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala liées à sa mission prophétique et non pas à ses sentiments personnels. Très belle, magnifique question posée par Aïcha radhiyallahu avec beaucoup de pertinence. Donc elle lui dit, quel est le jour le plus dur pour toi? Est-ce que c'est la bataille de Uhud où tu as perdu ton oncle, ton frère de lait, Hamza, le grand compagnon Mus'ab ibn Umair, etc. où il y a eu beaucoup de martyrs, beaucoup de morts? Et lui, il va dire qu'il a beaucoup souffert, effectivement, des gens de la Mecque. Mais c'est pas ça le pire. Et il va lui dire, en gros, le pire jour de toute ma mission, c'est quand il est parti à Taïf et qu'il a été lynché et humilié. C'est ça, le pire jour de sa mission prophétique. Donc, il faut vraiment s'imaginer comment c'était dur, ce moment-là. C'était pire qu'un champ de bataille où il y a eu des morts. Pire encore, c'est Taïf. Et pourquoi, Madina? Pourquoi? Parce qu'on est dans cette année de la tristesse. Il vient de sortir là de ce moment où il doit vivre la mort de son oncle et de sa femme bien-aimée. Intérieurement, il est mort. Il n'a plus d'énergie. Il a l'espoir, il va à Taïf. Et vraiment, l'expression que j'utilise, c'est il est au ras des pâquerettes. Et à ce moment-là, on le piétine. Alors qu'il est déjà par terre en train d'agoniser, à ce moment-là, on essaye de lui mettre le coup de grâce à Taïf. C'est pour ça que c'est le moment le plus dur de sa mission. Il va lui dire c'est ça. Et pour la petite anecdote, quand on...
Oui. Non, vas-y, je t'en prie.
Pour la petite anecdote, c'est que dans la suite du hadith, quand il part de Taïf, il y a l'ange des montagnes qui vient. Et qui lui dit, en gros, j'ai été envoyé par Allah, tu demandes et je l'ai détruit. Et là, lui, il n'en peut plus, le prophète. Il est vide intérieurement. Il pourrait baisser la garde et dire, allez, ben, détruis-les. Non. Et c'est là qu'on voit effectivement que cette fois-ci, on va dire, oui, c'est pas un homme comme les autres. Quand il est lié à la révélation, à sa mission, dans sa spiritualité, dans son lien avec les créatures, il est au-dessus de toute la création. Et là, il va faire cette invocation magnifique. Non, je demande plutôt à Allah qu'il fasse sortir de leur descendance des gens pieux. Tu allais dire quelque chose, je t'ai coupé, Madine.
Non, je t'en prie, mais c'est tellement beau. Et c'est pour ça que moi je comprends quand on dit quand ça irrite les gens qui disent oui bah le prophète Sallam c'était un homme hein. Oui, c'est vrai, bien sûr, et c'est pour ça qu'on peut s'identifier à lui. Mais un peu de quand même, comme on dit chez nous, en fait, rendez-lui un peu cette grâce quand même. C'est quel homme. Oui, c'est un homme, mais quel homme. Mais quel homme. Et ça, essayons de pas le minimiser, c'est important. Mais bien sûr, effectivement, c'est un homme, mais prenons cette expression pour se dire pas c'est pas c'est atteignable, mais je peux le regarder en me disant, Ya Allah. Facilite-moi ces qualités-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas pour le rabaisser lui, en fait, pour nous élever, nous. Voilà, utilisons cette expression pour nous élever et pas pour le rabaisser. Ça, c'est important. Et la chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est que, je vais dire, tu vois, c'est quand même fou parce que le prophète, il a quand même une mission prophétique qui a duré 23 ans. 23 ans. Le pire jour, c'est quand il a perdu espoir. Et en fait, c'était juste vraiment une toute petite digression, mais parce qu'on en parlait un petit peu avant l'enregistrement, de se dire tu peux être fatigué physiquement, tu peux perdre des gens, mais quand tu perds l'espoir, c'est le pire. Il n'y a pas pire en fait comme
Oui,
sentiment.
tout à fait. Et c'est là, voilà, effectivement, qu'on voit qu'il est un homme comme tous les hommes et qu'il peut très bien être vide
Bien
intérieurement.
sûr.
Mais à la différence, moi j'utilise une expression très souvent quand je fais mes conférences ou mes cours. Et il a un instinct spirituel. Les gens proches d'Allah, qu'ils soient des hommes ou des femmes, ils ont un instinct spirituel. C'est quoi
C'est
cet
quoi? Ouais,
instinct
c'est ça.
spirituel? Eh bien, c'est que lorsqu'ils sont dans une situation extrêmement difficile, où ils sont prêts à perdre espoir, ils ont un instinct. C'est de se diriger vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que la majorité des créatures, quand ils n'en peuvent plus, leur instinct, c'est de se diriger vers les autres créatures pour trouver des solutions. Non, les gens proches d'Allah, quand ils n'en peuvent plus, quand ils sont à bout, ils ont cet instinct. C'est instinctif. Ils se tournent vers Allah. Et lui, le prophète, à ce moment-là, quand il ressort de Taïf, qu'il a été lynché, qu'auparavant il vient de perdre Abu Talib et Khadija, que Abu Lahab, il l'a lâché en pâture aux autres de Quraysh. Que là, ça y est, il n'en peut plus, il est fatigué, il y avait eu 3 ans d'embargo. Là, vraiment, il n'en peut plus. Il tombe à terre, genou au sol. Il lève les mains. Et dans son instinct spirituel, il parle avec Allah. La meilleure des thérapies de l'univers, que même les animaux et les plantes, ils pratiquent. Parler avec Allah. Et là, voilà, son psychologue, c'est Allah. Il va tout dire à Allah. Il va dire, ô Seigneur, c'est à toi que je me plains de ma faiblesse, de mon impuissance et du mépris que j'inspire aux gens. Ô toi, le clément des cléments, tu es le Seigneur des plus faibles et tu es mon Seigneur. À qui m'abandonnes-tu? Est-ce à un inconnu hostile et renfrogné ou à un ennemi à qui tu as fait détenir mon sort? Si tu n'es pas en colère contre moi, ça je le répète, si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie guère. Mais ta grâce m'est plus chère que tout. Je me réfugie à la lumière de ton visage qui dissipe les ténèbres et dont le pouvoir peut changer l'éclat de ce monde et de l'au-delà. Que tu m'infliges ta colère et ton mécontentement. J'implorerai ton indulgence jusqu'à ce que tu sois satisfait et il n'y a de force et de puissance qu'en toi. Ces magnifiques doigts que je recommande à tous ceux qui le peuvent de l'étudier. Vous pouvez la trouver notamment dans les différents livres de Sirah, dans le livre L'ultime joyau de la prophétie, le nectar cacheté, vous pourrez la trouver. Magnifique doa où le prophète s'enseigne à l'intérieur, il vide son sac. Il ouvre son cœur et il se confie au plus grand des confidents, Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il y a une chose pour les gens proches d'Allah. C'est que quand ils font une invocation, ils ont la vocation exaucée, mais pas que. Ils ont la vocation exaucée directement. Pour ça, dans le Coran, très souvent, vous allez retrouver cette expression fastajabna lahu. Allah, il dit, et nous l'avons exaucée. Quand vous ouvrez le Coran, vous allez lire très souvent, il y a des prophètes qui font des doigts. Et Allah, il dit après, fastajabna lahu. Le fa, en arabe, quand on utilise fa, c'est pour désigner quelque chose qui arrive tout de suite, immédiatement, à l'instant T.
C'est-à-dire, le prophète, il fait la doa, tout de suite après, c'est exaucé. Eh bien, c'est ce qui va se passer avec le prophète. Dès qu'il a fini son invocation, je dis bien fini, hein, tout de suite, ça y est, ça commence. Allah va lui répondre en lui envoyant des signes, des événements qui se passent. Premier événement de réponse d'Allah envers le prophète pour lui montrer qu'en fait, il n'est pas en colère contre lui. Mais il y a quelque chose d'autre derrière ça. Et on va y arriver, Inch'Allah. Donc il faut bien suivre, hein. Suivez le fil. Première chose, quand le prophète s'est arrêté pour faire une invocation, il était dans le jardin de deux chefs de la Mecque. Et ces deux chefs de la Mecque, dans leur jardin, ils avaient, c'était des vergers avec des raisins, etc. Et ils avaient un esclave originaire d'Irak, un chrétien qui s'appelle Abdès. Et quand ils ont vu le prophète s'est dans cet état rempli de sang, au sol, genoux à terre, ils ont été touchés. Ils le connaissent, ils font partie de Quraysh aussi. Donc ils sont touchés quand même. Eux, ce sont des ennemis de l'islam, mais à ce moment-là, ils sont touchés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une grappe de raisin, ils vont la donner à Hadès, ils vont dire « Donne-la à cet homme là-bas ». Et Hadès, le serviteur, il va apporter la grappe de raisin au prophète. Le prophète prend la grappe de raisin, il dit « Bismillah ». Au moment où il dit Bismillah, Hadès, qui est un chrétien, il dit, mais j'ai jamais entendu quelqu'un ici, un arabe, dire ça. Il dit, d'où tu connais cette parole, Bismillah, au nom d'Allah, c'est-à-dire, hein, au nom d'Allah, l'unique. Lui, il sait, Hadès, que les arabes ici sont des idolâtres. Et là, il voit un homme qui est en train d'unifier Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, mais d'où viens-tu? Et Hadès lui dit, je viens de Ninive, en Irak. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, tu viens alors de l'endroit d'où vient le prophète Younous ibn Matta. Et là, Hadès, il n'en peut plus. Il dit, mais c'est incroyable. Il n'y a personne qui connaît Younous ici. Il dit, mais comment tu connais Younous? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire comme ça, il va dire, nous sommes des frères, parce que Younous est un prophète et moi, je suis le prophète d'Allah. À ce moment-là, Hadès, il commence à embrasser la tête, les mains et les pieds du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, en fait, c'était un signe envoyé par Allah pour lui dire, je ne suis pas en colère contre toi. Et si certains refusent de croire en toi, je peux très bien faire venir un simple petit esclave qui a des connaissances dans la foi, qui lui va reconnaître en toi la prophétie. Et Hadès, il lui embrasse les mains et les pieds à tel point que les deux chefs mécois ont fait « Pep, toi, reviens là. Eh, on t'a envoyé pour la grappe de raisin, tu lui embrasses les pieds. »
N'oublie pas trop non plus, c'est ça.
Ouais, voilà. Donc ça, c'est la première réponse. Et en fait, elles vont s'enchaîner. Le prophète, sur scène, il continue son chemin. Il se dirige vers la Mecque, pour retourner à la Mecque. Et il s'arrête dans les faubourgs de la Mecque, dans le désert. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant la nuit, alors que le prophète Sam, il fait la prière de la nuit, il va lui envoyer des djinns. Les djinns vont venir écouter le prophète sallam, et ils vont se convertir à l'islam. Et Allah azawajal va immortaliser cela dans la sourate Al-Jinn. Il va informer le prophète sallam, que il y a des djinns qui sont venus écouter le Coran, hein, et qui vont dire Sami'ana Qur'anana ajaba. Ils vont dire, les djinns, on a entendu une lecture merveilleuse, incroyable. Et ils se sont convertis à l'islam. Encore une fois, c'est un message, un signe venant d'Allah Azzawajal pour lui dire, je ne suis pas en colère contre toi. Et même dans le monde invisible, si ton peuple ne veut pas te croire, dans le monde invisible, il y a des créatures qui croient en toi. C'est pas fini. Il continue, il se rapproche de la Mecque, et quand il arrive dans les limites de l'entrée de la Mecque, il s'arrête. Et il ne peut pas entrer dans la Mecque. Parce qu'il sait très bien que s'il rentre dans la Mecque, les autres chefs de Quraysh, ils vont essayer de le tuer. Et à ce moment-là, il y a un des chefs de la Mecque qui s'appelle Mut'im. Et retenez bien son nom. Mut'im, je le répète. Mut'im, retenez bien son nom, parce qu'on va y revenir. Mut'im, à ce moment-là, il le voit. Mut'im, c'est un idolâtre. Hein, mais il a du respect pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il sait qu'il est honnête, il est digne de confiance, d'un bon comportement. Et Mut'im, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Et le prophète lui dit, je ne peux pas rentrer parce que sinon on va essayer de me tuer et tout. Et il va être offusqué, il va être choqué. Il va lui dire, comment ça, toi, El-Emin, tu ne peux pas rentrer? Et il va lui dire, tu es sous ma protection. Et Motaïm, c'était un chef qui était craint. Il était très craint à la Mecque. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait une garde personnelle qui était très réputée. On sait tous que quand quelqu'un a des gardes du corps, il peut aller un peu partout, il est protégé, n'est-ce pas? Ben lui, Motaïm, sa garde personnelle, elle était très spéciale. C'était ses propres enfants. Ses propres fils formaient sa propre garde personnelle. Vous savez, vous pouvez avoir un garde du corps, hein, vous le payez, mais au bout d'un moment, il va dire « c'est bon, je risque pas ma vie. » Mais quand c'est ton propre fils, ton garde du corps, t'es intouchable. Ben, Motaïm, sa garde personnelle, c'était ses enfants. Ce qui fait que les autres chefs de la Mecque, ils avaient très peur de Motaïm. Donc Motaïm, il prend le prophète, il lui dit « viens avec moi ». Il va près de la Kaaba et il dit d'une manière publique et solennelle « Mohammed, il est sous ma protection ». Et c'est comme ça que le prophète, il va pouvoir rentrer dans la Mecque. Donc encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui apporte un soutien et il lui montre un signe, il lui fait comprendre que même si certains ne croient pas en toi, ils reconnaissent ce que tu es et tes qualités, à l'instar de Motaïm. Et ça va continuer, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à répondre au prophète, et par la suite, il va lui offrir Isra wa al-Mi'raj, le voyage nocturne, qui va être la consécration de cette invocation que le prophète s'est fait, où il demande à Allah, est-ce que tu es en colère contre moi? Allah lui a fait comprendre, je ne suis pas en colère contre toi. Mais c'était des épreuves par lesquelles tu devais passer. Et maintenant, je t'ai répondu pour te faire comprendre qu'effectivement, il n'y a rien contre toi. Au contraire. Et bien là, Madina, on va en venir à ce que je voulais te dire et à quoi tu as orienté la discussion. C'est qu'en fait, ça c'est mon avis personnel, c'est une analyse que je propose. Moi, je pense que le prophète, sans même, il est passé par ces moments difficiles à Taïf, ce moment difficile à Taïf, parce qu'Allah Azzawajal, il a voulu éprouver le prophète, sans même. Il a voulu l'éprouver avec Taïf, avec Abu Lahab qui reprend le commandement de la tribu, il a voulu l'éprouver. Parce que quand on a des épreuves, des difficultés, qu'on doit affronter dans notre quotidien, ben ça détourne nos pensées négatives. Parce qu'on est actif. Et on pense plus à cette chose qui nous causait une blessure dans notre cœur et qui affectait notre esprit. On n'y pense plus parce qu'on a d'autres choses sur lesquelles on doit se concentrer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, d'une manière très subtile, très sage, il a poussé le prophète sans même à penser à autre chose. À penser à sa mission avant tout. Il l'a quelque peu, comme on dit, il l'a mis dans les cordes du ring et il a été obligé un petit peu de répondre, de ne pas se laisser faire. Donc il a dû sortir en Taïf, bouger, il lui arrivait ce qui lui arrivait. Mais tout ça, c'était, selon moi, une volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, afin de détourner les pensées négatives du prophète. Et ça, Madina, c'est un moyen, dans la pédagogie divine, c'est un moyen de détourner les pensées négatives. On détourne les pensées négatives par l'action. Quand vous avez des pensées négatives, faites des actions qui vont vous permettre d'avoir une concentration sur ce que vous faites et de ne plus penser aux choses qui vous perturbaient intérieurement. Autre exemple, pour appuyer cela, quand le prophète Sassam, il est parti pour faire l'expédition, la bataille de Hunayn, il y a en chemin deux groupes de musulmans qui se sont disputés. Et gravement, hein, au point qu'ils ont pris les armes, et c'était très très grave. Donc il y a eu une dissension au sein de l'armée musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est intervenu, et normalement il devait faire une pause, il devait s'arrêter là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, levez-vous. Et il leur a donné l'ordre de marcher. Et ils ont marché des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a épuisés. Quand ils sont arrivés à l'endroit du repos, finalement, où ils ont fait le campement, ils étaient tellement épuisés qu'ils avaient oublié pourquoi ils s'étaient querellés et tout ce qui s'était passé. Donc en fait, il a détourné les pensées négatives par l'action. On retrouve aujourd'hui aussi des personnes, ils vont courir. Ils vont courir pour oublier un peu le stress de la journée et tout ça. Donc, détourner les pensées négatives par l'action. Et là, j'ai une anecdote. Cette fois-ci, c'est une anecdote liée au, justement dans le couple. Quand parfois dans le couple, il y a des tensions. Des disputes ou autre. Et ben, à l'instar de ce qui s'est passé à la bataille de Hunayn, il faut essayer de détourner ces mauvaises pensées, cette dispute, par une autre action. Et ça, c'est une anecdote personnelle. Je me souviens que je rentrais une fois, c'était tard, hein, je rentrais d'une conférence, et sur ma route, près de chez moi, je vois un frère que je connais. Tout seul, il marchait. Donc je m'arrête et je dis, viens, je te ramène. Et il me dit non, je veux pas, je veux marcher. Je dis d'accord et tout, je dis, naïf et tout, il y a, je dis, pour ton cœur, c'est bien. C'est... Non, il me dit non, il dit, je me suis disputé avec ma femme. Je me suis disputé avec ma femme. Il me dit, alors j'ai besoin de sortir et de marcher. Et après, donc je l'ai laissé, et sur la route, j'ai médité, j'ai dit, mais c'est trop fort. Plutôt que d'envenimer la chose à la maison, et parfois que ça peut dégénérer, hein, il a préféré sortir, marcher, il était loin, marcher, je pense, jusqu'à ce qu'il va s'épuiser.
C'est une grande dispute.
Il pense pas à la chose, il arrive, il dort direct.
C'est ça.
Mais c'était trop fort, magnifique. Magnifique.
Mais je crois que tu sais, donc, même, voilà, même les personnes un peu, même quand t'es pas dans des disputes, quand t'es un peu hyperactif au niveau de, et que tu réfléchis beaucoup dans ta tête, ce qui est mon cas, eh ben en fait, j'ai réalisé que quelque part, en fait, subhanallah, faut que tu t'occupes les mains en fait. Ça a l'air de rien, tu vois. Mais même quand, je sais pas, moi, tu fais tes afkar et que t'as pas envie que ton esprit il aille trop loin, t'occupes tes mains. T'occupes tes mains comme ça, en fait, ton énergie, elle est focalisée sur quelque chose de physique. Et du coup, tout redescend en fait. Et je pense que tout ça, c'est un peu lié en fait. De dire qu'en fait, quand il y a trop de bruit ici, quand tu as trop d'énergie dans le cerveau, dans ton cœur, dans ton âme, il faut que ça redescende dans les membres. Parce qu'on est des êtres de chair en fait. On a un corps, on a une âme, on a un esprit. Et parfois, quand c'est trop embrouillé là, il faut qu'il y en ait un des trois qui prenne le relais. Et souvent, c'est le corps. Tu vois, c'est la nature qui parle en fait. Tu parlais d'instinct spirituel, mais parfois, tu as l'instinct du corps, l'instinct de survie qui te permet justement d'avancer. Enfin, moi, je le vois comme ça.
Non, non, tout à fait. Et c'est vrai que tu as mentionné le fait, par exemple, de quand on fait le dhikr, ce qu'on appelle tasbih, hein, on va répéter plusieurs fois des formules de glorification. C'est, par exemple, le prophète, dans son exemple, il appuyait avec son pouce, par exemple, sur les phalanges, les différentes parties des doigts. Et on sait très bien aujourd'hui avec la science que quelque chose qui permet d'évacuer le stress. C'est pourquoi d'ailleurs il existe même des objets spéciaux, tu sais, comme des boules anti-stress ou des mousses anti-stress qu'on prend dans la main et sur lesquelles on va appuyer. Parce qu'effectivement, ça a un effet sur l'esprit, sur le cœur même, au niveau de la pression du sang. Donc même d'un point de vue scientifique, c'est prouvé. Et lui, le prophète, il pratiquait cela en l'accompagnant de formules de glorification de dhikr. Donc, bien vu pour le petit clin d'œil, Madina, mashallah. Donc, pour résumer, voilà, Allah Azza wa Jal, il a accompagné en fait le prophète sallam dans son deuil. Il l'a accompagné à faire le deuil comment? Eh bien, en détournant son esprit directement du deuil et en le poussant à être actif sur le champ de la mission prophétique.
Et aujourd'hui, en tant que croyant, moi, quand j'écoute ce que tu nous as partagé, je comprends que pour traverser un deuil, il faut essayer autant que faire se peut de ne pas rester dans une spirale de négativité et d'essayer de se remettre en marche. Mais de toute façon, les personnes par exemple, qui ont perdu, je sais pas moi, un enfant et qu'ils ont d'autres enfants, ils te disent bah, « en fait, comme j'ai d'autres enfants à m'occuper, c'est ça qui me fait lever le matin parce que sinon moi je me lèverai pas en fait. J'ai pas envie de me lever, j'arrive pas. » Mais comme tu as des enfants… Hop, c'est ce que tu parles en fait, c'est une distraction physique, c'est une distraction de la tête, c'est une distraction du cœur qui te permet d'avancer. Tu vois, tu es vraiment dans un mouvement. Donc peut-être pour les personnes qui vivent un deuil, de se dire, pensez à avancer, même quand vous êtes à terre, même quand peut-être pensez à avancer, faites la doua, la magnifique doua que t'as cité, que t'as évoqué. Je mettrai un lien, Inch'Allah, pour qu'on puisse, pour ceux qui veulent y accéder, je pense qu'elle est facilement trouvable sur Internet. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Se rappeler qu'Allah ne nous punit pas à travers un deuil. Que certaines épreuves sont malheureusement sont nécessaires pour passer d'un état à un autre, parce qu'on est là pour évoluer, on est dans une évolution permanente, et qu'il y a certains stages, certains étages, certaines étapes qui ne se passent pas sans ces étapes-là, en fait, sans ces douleurs-là. Donc se dire que dans la douleur, il y a toujours aussi un peu de facilité, dans la douleur, il y a un enseignement, et dans la douleur, Inch'Allah, il y a un bonheur qui viendra. Est-ce que toi, tu souhaites rajouter quelque chose au vu de ce qu'on vient de partager?
Tu as très bien résumé la chose et voilà, effectivement, les personnes qui traversent un deuil, ben, premièrement, ça va être de ne pas rester seul. Il y a toujours ce côté social. Le prophète, on voit, il est parti vers des gens. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui va nous rendre actifs. Actifs et utiles. Je donne un exemple vraiment simple, mais pratique. Une association près de chez vous. Une association par exemple, qui distribue des repas pour les plus démunis. Participez. Votre esprit sera focalisé sur autre chose que cette douleur qui est ancrée dans le cœur. Et votre esprit va penser à autre chose. Votre corps va être aussi dans une positivité. Et tout ça va avoir un impact sur la personne. Ce qui fait que petit à petit, elle va dissoudre ce sentiment négatif lié. Ah, je dis bien négatif parce qu'il y a toujours des sentiments qui sont positifs, même dans le deuil. C'est normal. On va y revenir après. Mais les sentiments négatifs liés au deuil.
Je te remercie Farid pour la précision, parce que je sais que c'est des sujets qui sont importants et on arrive à des moments de nos vies où bah, beaucoup d'entre nous ont perdu ou perdent leurs parents. Et je pense que c'est important de pouvoir leur dire qu'on pense à eux, que qu'Allah ce matin-là les accompagne dans cette épreuve et là leur facilite, Inch'Allah.
Amen.
Rester un peu dans ce sujet-là, mais pour aller. Parce que tu vois, là, justement, tu parlais de d'être en activité, etc. Et je me dis, effectivement, l'idée, c'est de dire qu'il faut continuer à avancer et à cheminer dans cette vie. Si on chemine un petit peu des années après la perte de ces deux êtres chers pour le prophète, sallam, et notamment Khadija, radiallahu anha, il y a un épisode, il y a un événement qui est connu de certains et qui montre que, en fait, même après des années, et en fait, cet amour, il est là, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, on se posait la question tout à l'heure de est-ce qu'on fait vraiment le deuil, etc. Est-ce que faire le deuil, c'est oublier? Et en fait, il y a un événement qui s'appelle l'événement du collier qui montre, s'il fallait encore montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est connecté à Khadija, radiallahu anha, bien des années après sa perte. Tu peux nous parler de cet événement? Parce que je sais que toi, c'est un événement, tu m'as dit tout de suite, alors de toute façon, on parlera pas de cette histoire si on parle pas de cet événement-là, voilà, je te le dis. Donc pourquoi c'est
C'est
un
vrai.
événement qui te touche autant? Enfin, parle-nous-en et dis-nous pourquoi toi, ça te touche à titre personnel.
Alors, ce qu'on appelle l'épisode du collier, alors il y a deux sortes d'épisodes
Oui,
du
en plus,
collier.
c'est
Il y a
vrai.
celui de
Non,
Aïcha,
Aïcha,
hein, il y a
oui,
celui de
c'est vrai, tu as bien
Aïcha, mais on ne
raison.
parle pas de celui-là. On va parler de l'épisode du collier autre, qui est lié à
C'est
Khadija.
vrai, j'ai bien précisé.
C'est l'un des événements qui m'a le plus marqué dans la Sira parce que c'est un événement où pour la première fois les compagnons ils vont observer, remarquer, voir le prophète
Ça,
sallallahu alayhi
c'est
wa sallam
beau.
dans un état qu'ils n'avaient jamais vu. Ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer, être empreint d'une grande tristesse, alors qu'il ne l'a jamais vu faire ça. Ils vont le voir ultérieurement, notamment quand il va perdre son fils Ibrahim. Mais avant ça, ils n'avaient jamais vu le prophète dans un état pareil. Et là, c'est la première fois. C'est pour ça que ça m'a marqué. Et je vais vous raconter pourquoi le prophète était dans cet état-là. Alors, il y a un contexte à cette histoire, c'est la bataille de Badr. Donc on connaît tous la bataille de Badr, les musulmans sont victorieux, bien qu'ils étaient inférieurs en quantité, mais meilleurs en qualité, je le répète encore. Donc par la grâce d'Allah, ils ont remporté cette bataille. Après la bataille, il y a une question nouvelle, qui n'existait pas, puisque c'est la première fois qu'il y a eu une bataille en islam, c'est la question des prisonniers. D'ailleurs, c'est une question extrêmement sérieuse, à tel point qu'il va y avoir une divergence entre Abou Bakr et Omar, une divergence virulente. Abou Bakr qui propose de libérer les prisonniers en échange d'une rançon, et Omar qui dit non, il faut les tuer. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala va, à travers la révélation, donner raison à Abou Bakr. Donc, il a été choisi, donc, après la révélation, de libérer les prisonniers par. En fait,
pardon, ça a été choisi déjà par le prophète au début, avant la révélation, et la révélation est venue confirmer le choix du prophète et l'orientation donnée par Abou Bakr. Donc le prophète, il va accepter de libérer les prisonniers Quraishites de la bataille de Badr en échange d'une rançon. Et lui-même, le prophète, il va fixer une rançon spécifique pour ceux qui n'ont pas les moyens. Il va dire, parmi les prisonniers de Quraish, celui qui apprend à lire et à écrire à 10 personnes de Médine, il retrouvera sa liberté. Là encore, c'est un appel à l'acquisition du savoir. On voit toute la mansuétude et la rahma de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui va se passer, c'est que parmi les prisonniers, il y en a un qui s'appelle Abu al-As ibn Rabi'a. Abu al-As ibn Rabi'a. Alors, qui est-il? Ah, attention, il faut le connaître. Abu al-As ibn Rabi'a, c'est le neveu maternel de Khadija. Radiana, d'accord? C'est le neveu de Khadija. D'ailleurs, Khadija, elle s'est occupée de lui depuis qu'il est petit. Elle le considérait un peu comme un de ses fils. Et lui, il avait un grand amour pour Khadija. C'est pourquoi d'ailleurs, quand il sera adulte, Khadija elle va discuter avec son époux, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et elle va proposer de marier leur fille aînée Zaynab à celui qu'elle considère comme un de ses enfants, qui s'appelle Abu al-As. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va accepter, et donc la fille aînée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab, va épouser Abu al-As. Et d'ailleurs, au-delà de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, l'amour de Abu al-As avec Zaynab, il est extraordinaire. C'est un amour extraordinaire. Abu al-As, il était fou amoureux de Zaynab. Mais vraiment, quand je dis qu'il était fou amoureux, il était fou amoureux d'elle. Par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la prédication, Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait deux de ses fils qui étaient mariés avec deux des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va ordonner à ses fils de répudier les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils vont faire. Abu al-As, pareil, son clan, les chefs de Quraysh, vont lui mettre la pression pour qu'il répudie Zaynab. Et il va avoir cette phrase célèbre, digne d'un poème d'amour, il va dire « Jamais je ne voudrais de l'amour d'une autre femme. » Et il va rester avec elle, il ne va pas la répudier. Malgré toute la pression sociale, politique qu'il y avait autour, il va rester avec elle. Donc vraiment, hein, je le dis, il était fou amoureux d'elle. Et il ne l'a pas abandonnée. Donc Abu al-As, pour en revenir, il fait partie des prisonniers de Badr. Parce que oui, il n'était pas musulman. Zaynab, elle était musulmane, mais lui n'était pas musulman. Zaynab, donc elle est à la Mecque. Elle sait que son mari Abu al-As n'est pas revenu. Elle apprend la nouvelle, elle a été fait prisonnier. Et les prisonniers ne peuvent être libérés qu'en échange d'une rançon. Et les prisonniers de la Mecque, les Quraishites, hein, un à un, ils se font libérer. Leur famille vient, ils envoient des émissaires avec beaucoup d'argent, etc. pour la rançon. Et ils sont libérés un à un, sauf Abu al-As. Jusqu'au moment où il va y avoir quelque chose de très particulier. Il y a un émissaire qui est envoyé de la Mecque. Il arrive à Médine et il se dirige direct vers le prophète Sarsem pour une rançon. Et là, il pose quelque chose dans la main du prophète Sarsem. Alors d'habitude, on apporte des gros sacs avec des centaines de choses, etc. Et là, une petite chose dans la main du prophète Sarsem. Et les compagnons sont là, hein. Ils sont à côté du prophète Sarsem. Et ils vont voir le prophète Sarsem fondre en larmes. Une petite chose dans sa main, il est en train de fondre en larmes. Et il va regarder ses compagnons et il va leur dire « Est-ce que vous m'autorisez ?» Parce que normalement, la rançon, elle avait une limite. Et là, il va dire « Est-ce que vous m'autorisez ?» à libérer Abu al-As en échange de ceci. Et il va montrer, il va ouvrir sa main et en fait, il y avait un collier. C'était le collier que Khadija l'avait donné à Zaynab avant de mourir. Et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va voir le collier, moi, ça me touche vraiment là. Il va fondre en larmes et il va demander la permission à ses compagnons. Chose qu'il n'avait jamais faite avant. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé la permission pour quelque chose. C'est la première fois. C'est la première fois qu'il demande en quelque sorte un passe-droit, un privilège. Il ne l'a jamais demandé. C'est la seule fois qu'il le demande pour, juste pour pouvoir récupérer le collier de Khadija. Aradiana. C'est pas de l'amour ça même après la mort. Et les compagnons, quand ils vont voir la tristesse du prophète, ils vont dire, Mais, ya Rasulallah, nous on ferait tout ce qu'on peut pour apaiser ton regard et te rendre heureux. Donc oui, on accepte. Et Abu al-As, donc, il va être libéré en échange du collier de Khadija et en échange d'une promesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va le prendre et il va lui dire, tu rentres à la Mecque, mais tu m'envoies ma fille, Zaynab, parce qu'elle ne peut pas rester avec toi. Elle est musulmane, toi, tu n'es pas musulman. Donc ça, c'est l'histoire du collier, mais je vais un petit peu la pousser un peu plus, si tu me permets, parce qu'il y a toujours aussi cette histoire liée à l'amour de Abu al-As et de Zaynab, qui est magnifique. C'est que Zaynab, quand elle va aller à Médine, donc elle va vivre avec son père, elle aura sa petite demeure à elle, et Abu al-As, un jour, avec une caravane commerciale, il se fait attaquer aux environs de Médine. Il prend la fuite, il arrive à se sauver, alors que certains se font tuer. Et pour lui, dans les environs, le seul refuge qu'il a, c'est encore sa femme. Hein, pour lui, c'est sa femme, c'est Zaynab. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en cachette dans la ville de Médine et il arrive chez sa femme, Zaynab. Et il lui demande protection. Donc elle le fait rentrer chez lui. Le lendemain matin, à la prière du Sobh, une fois que le prophète s'en il a fini la prière, elle se lève derrière des rangées où il y avait des femmes. Elle se lève et elle lance un appel en disant, Je suis Zaynab, la fille de Mohammed, et sachez que Abu al-As est sous ma protection dans ma demeure. Le prophète va se retourner, il va regarder ses compagnons, il va dire, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Ils vont dire oui. Il va dire, je n'étais pas au courant. Ici, c'est pas un passe-droit, c'est pas un privilège, moi j'étais pas au courant. Mais c'était la tradition, quand quelqu'un offre sa protection, on doit lui accorder. Donc Abu al-As, il va avoir la protection auprès de Zaynab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va tout de suite aller voir Abu al-As et Zaynab, et il va leur dire, vous ne pouvez pas rester ensemble sous le même toit.
Le même toit.
Et il va dire à Abu al-As, tu dois partir parce que vous n'êtes plus mari et femme, maintenant c'est fini. Donc Abu al-As va accepter. Avant de partir, les autres compagnons vont lui demander d'embrasser l'islam. Donc il faut s'imaginer la scène, hein, il est là, il y a le prophète, il y a tous les gens de Médine, les musulmans, ils sont là, et on lui demande d'embrasser l'islam. Et fièrement, il regarde comme ça, il regarde dans les yeux les gens, et dit non. Et il s'en va. Dès qu'il arrive à la Mecque, la première chose qu'il fait, il descend de sa monture, les Mécois viennent le chercher, il regarde les Mécois dans les yeux, pareil, cette fois-ci, il les regarde dans les yeux, il dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah » sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il va dire, quand j'étais à Médine, on m'a demandé d'embrasser l'islam, et j'ai eu peur qu'on dise Abu al-As, il a embrassé l'islam par peur. Alors je suis venu vous voir ici en vous regardant dans les yeux et je vous le dis, je suis un adepte de la religion de Mohammed. Et il va retourner à Médine et là il va retrouver sa bien-aimée Zaynab et ils vont vivre ensemble à nouveau. Alhamdulillah. Donc c'est des retrouvailles, une belle histoire d'amour.
Et
le prophète va être très content de cela. Parce qu'il va dire, il va prendre Abu al-As et devant ses compagnons, il va dire Abu al-As, il est pour moi quelqu'un de véridique. À chaque fois qu'il parle, il est véridique. Et quand, avant l'islam, il était mon beau-fils, à chaque fois qu'il m'a fait des promesses, il les a tenues. Et quand il avait des engagements, il restait toujours fidèle à ses paroles. Beau témoignage du prophète, sallallahu alayhi wa
sallam. Magnifique.
Envers son beau-fils, hein, on voit la relation hein, entre le beau-fils et le beau-père, magnifique. Donc voilà l'histoire du collier.
C'est beau, hein, parce que c'est... En fait, c'est... Il y a tellement d'enseignements, c'est la suite, la continuité d'une histoire d'amour qu'on a commencé à raconter et on voit qu'elle se poursuit au fil des années. Et en fait, je le voyais pas du tout comme ça, mais tu vois, maintenant que tu l'expliques, je le vois aussi comme un... C'est un collier de transmission aussi. En fait, c'est quand même un collier qui a été une ouverture vers la conversion du gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment, et c'est encore aussi la preuve à chaque fois que tout est lié en fait. Dans cette histoire d'amour, il y a de l'amour, mais le spirituel, la présence d'Allah, elle n'est jamais loin. Et tu vois, pour revenir un peu à l'histoire des Zaynab et de son époux, c'est fou parce que c'est des histoires un peu rocambolesques que nous, en tant qu'humains, on aime beaucoup. Oh là là, ils s'aiment trop, oh, c'est trop fort, ils se séparent, ils se retrouvent, c'est fantastique, etc. Et on pourrait se dire, waouh. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que même dans ces histoires-là, Encore une fois, Allah, il est jamais loin et les limites, autant que faire se peut, elles sont toujours tenues en fait. Il y a toujours ce truc de, on peut s'aimer fort, mais si vous voulez de la baraka à la fin de la journée, jamais ne sortez Allah de l'équation en fait. Jamais, 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 parce qu'en fait, l'issue, elle est heureuse, parce qu'Allah, il est dans l'équation à la fin. Et c'est ça qui fait que cette histoire, elle est pas juste rocambolesque, c'est une histoire aussi de personnes qui se sont aimées en Allah. Et je trouve aussi que c'est un bel enseignement parce que aujourd'hui ça peut être difficile pour nos parents parce que parfois on veut se marier avec des personnes qui sont pas de notre culture, qui viennent pas du même pays, etc. Mais même ça, le prophète Sam, quand une fois, il l'a vécu. Il sait ce que c'est que d'être dans un, d'avoir des enfants qui s'aiment mais qui peuvent pas vraiment être ensemble, etc. Comment gérer d'une manière diplomatique dans le respect mais en restant ferme. Restant ferme dans sa foi. Et ça, c'est des magnifiques enseignements pour notre époque, je trouve.
Oui, et d'ailleurs, c'est important que tu parles de cela, parce que la seule raison pour laquelle le prophète, il a refusé qu'Aboul Aas reste avec sa fille, c'est le critère religieux.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir avec la couleur, avec le statut social, avec... Non, c'est la religion. C'est pourquoi si quelqu'un dont la religiosité est convenable, qu'il demande la main à votre fille, ou que, pareil, votre fils ou votre fille voilà, doit se marier avec quelqu'un dont la religiosité est convenable, c'est ça le facteur fondamental. Le reste, qu'il n'est pas de mon pays, qu'il n'est pas de ma culture, qu'il n'est pas de mon statut social, ça n'a rien à voir. Le critère principal, c'est celui dont le prophète Sansem, il met en avant, notamment à travers cette histoire, c'est le critère religieux, le critère de la foi.
Tout à fait. Ah, c'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Justement, avant de passer à ma dernière question, tu nous as dit qu'on reviendrait sur Moutarib. Tu vois, j'ai retenu. Est-ce que, du coup, tu veux... tu veux clôturer ce lien, t'as vu? Je veux bien que tu lui donnes le fin mot avant qu'on puisse voir vraiment les derniers enseignements à tirer de ces merveilleuses histoires.
Alors, je voulais en parler dans un point, tu sais, où je voulais parler un peu de la manière dont notre prophète, il a préservé son amour avec Khadija après sa mort, juste avant d'en tirer les leçons. Et deux axes principaux sur comment le prophète, il a préservé cet amour. Bah, le premier, c'est en honorant la mémoire de Khadija, même après sa mort. J'avais donné des exemples déjà la dernière fois, lors du précédent enregistrement.
Tout à fait.
Il avait l'habitude, le prophète, même, de faire des sacrifices, il sacrifiait une bête, et il donnait en aumône les parties de la bête aux amis de Khadija. Et ça, d'ailleurs, ça avait rendu jalouse Aïcha, quand elle voyait ça. Et là, c'est là que j'en reviens à Moutaïb. Parce que le prophète, l'une des choses qui m'a le plus marqué quand j'étudie sa vie, c'est qu'il est quelqu'un d'extrêmement reconnaissant. Et ça, c'est un état qu'il est extrêmement difficile d'atteindre en tant qu'être humain. L'être humain, il est ingrat. Vraiment, l'être humain, il est ingrat. Mais comment c'est magnifique et beau quand l'être humain, il est reconnaissant. Il n'y a rien de plus touchant que la reconnaissance de l'être humain. Quand le prophète, il honore la mémoire de Khadija, il est plein de reconnaissance, c'est beau, c'est magnifique. Mais je vais faire une petite parallèle avec Moutaïm, c'est que Moutaïm, qui lui avait donné la protection, souvenez-vous, Moutaïm, il meurt un peu de temps avant la bataille de Badr. Quand la bataille de Badr est terminée, il y a la question des prisonniers, il y a la négociation avec Quraysh. Et le prophète, il va aller voir Quraysh juste à la fin de la guerre, de la bataille. Il va leur dire comme ça, il va dire « Une chose, si vous me la donnez, je libère tous les prisonniers. Oh, » Quraysh se frotte les mains. « Non, tranquille, vas-y, dis-nous, c'est quoi cette chose ?» Et là, le prophète, il va les regarder, il va leur dire « Vous ramenez Moutaïm devant moi. Il me demande de libérer tous les prisonniers, juste pour lui. Je les libère tous. » Et là, les chefs de Quraysh, ils vont baisser la tête, ils vont comprendre la leçon. Ils vont baisser la tête et ils vont dire, on peut pas. Ben oui, Moutaïm, il est décédé. Le prophète, il savait, mais il a fait exprès. C'était le moment d'honorer la mémoire de Moutaïm, qui lui avait donné protection quand eux voulaient l'assassiner.
C'est beau.
Il a honoré la mémoire d'un idolâtre.
que certains disent parfois mécréant, hein, il a honoré sa mémoire de la plus belle des façons. Si Mutaïm il est là, juste pour lui, je libère tous les prisonniers. Il n'est pas là, ben allez, tant pis pour vous. Donc voilà, il a honoré sa mémoire. Magnifique. Et j'aime beaucoup ce moment-là parce que ça nous montre comment la reconnaissance c'est quelque chose de beau, de fort, de magnifique. Et en vérité, c'est quelque chose qui est difficile à atteindre.
Très. Et c'est la reconnaissance.
Donc le premier acte, c'est en honorant.
C'est la reconnaissance envers tout le monde, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, tu l'as dit, Mutaïm, il n'était pas converti, il n'était pas musulman. Mais en fait, le prophète sallam, il sait reconnaître le bien qui lui a été fait. Il ne renie jamais le bien qui lui a été fait, en fait. Ça, c'est fort, hein. C'est hyper fort, c'est une grande leçon qu'on a là. Et je pense aussi que le fait que ce soit aussi l'année de la tristesse, on en revient toujours à cette année qui est forte en émotions, qui est forte en événements, c'est pas anodin aussi, mais c'est je trouve que c'est un très bel enseignement, machin.
Ouais, magnifique. Vraiment, c'est une des choses, pareil, qui m'a beaucoup marqué dans la Sira. Donc, pour en revenir, la manière dont notre prophète a préservé son amour pour Khadija après sa mort, en honorant sa mémoire, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, c'est en préservant son souvenir. Il a préservé le souvenir de Khadija. Comment ? Ben, il parlait souvent d'elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Aïcha, entre autres, elle était jalouse. Parce qu'il parlait tout le temps d'elle. Et elle dit dans le hadith, Aïcha, elle dit cette parole en arabe, hein, Yukthiru dhikraha. C'est-à-dire, il se souvenait d'elle en abondance. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup, tout le temps. Donc, c'était sa manière de... d'honorer sa mémoire, de préserver son souvenir. L'histoire du collier, c'était une manière de préserver le souvenir de Khadija. Hein? Il aurait très bien pu prendre le collier, le prendre, et puis le rendre à Zaynab. Pas du tout. Il l'a gardé pour lui, le collier. Eh oui, il l'a gardé pour lui, il ne l'a pas redonné à sa fille. Il l'a gardé à lui, le collier. Il voulait avoir ce souvenir proche de lui. Un objet. Comme quoi, un objet, il peut être quelque chose de... un vecteur de souvenirs émotionnels et souvenirs amoureux.
Mais c'est, ça aussi, c'est un bel enseignement, je trouve, de voir que quand tu aimes quelqu'un avec... En lui gardant son honneur, en lui donnant tout, quoi. Enfin, quand je dis tout, c'est vraiment... faut pas en garder sous le pied en se disant « Oui, si je lui fais ça, après lui va penser ça. » Et donc, on fait des équations dans sa tête et tout ça. Si tu donnes vraiment en disant « Yallah, j'aime cette personne, filaire, donc je l'aime pour toi, je l'aime aussi pour ce qu'il est. » Cet amour triangulaire dont on parle souvent. C'est fort, quoi. Des années après, cet amour, il est d'une stabilité, il est d'une force, d'une puissance... Ça aussi, c'est un bel enseignement. On n'est jamais perdant quand on est droit dans ses bottes et quand on aime avec sincérité, en fait.
Tout à fait, mashallah, tout à fait.
Est-ce que tu vois d'autres enseignements à partager et qui sont liés à cette magnifique histoire ?
Alors oui, de tout ce qu'on a pu parcourir ensemble, Madina, depuis le premier enregistrement, je pense que ça fait plusieurs heures qu'on est passé ensemble.
Mashallah.
Et oui, hein, dans cette magnifique histoire, il y a quatre orientations sur lesquelles je vais m'arrêter. Quatre orientations. La première, l'importance de donner du temps à son couple. Quand je parle de donner du temps à son couple, je parle de donner du temps dans l'intimité du couple. Il faut qu'un couple, il ait des moments d'intimité, sans qu'il y ait personne, pas même les enfants. Il faut un moment d'intimité. Donc l'importance de donner du temps au couple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les deux femmes pour qui il a eu le plus d'affection, c'est Khadija, radiallahu anha, et après c'est Aïcha, radiallahu anha. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les deux femmes avec qui il a passé le plus de temps. Khadija, parce que quand il était marié avec elle, c'était sa seule épouse, et qu'ils avaient une relation fusionnelle. Ensuite, Aïcha, parce que quand il avait plusieurs épouses, celle avec qui il passait le plus de temps, c'était Aïcha. Donc forcément, l'affection qu'il avait pour elle était plus grande que pour les autres épouses. Donc l'importance de donner du temps au sein d'un couple. Et à contrario, attention, parce que l'éloignement dans un couple, il va dissoudre l'affection. Il ne faut pas qu'il y ait un éloignement. Il peut y avoir une pause. C'est important d'avoir une pause. On fait une petite pause, mais pas un éloignement. Parce qu'avec l'éloignement, les sentiments vont se dissoudre et à un moment donné, il y aura un non-retour. Et c'est la cassure. Donc voilà, première orientation, l'importance de donner du temps au couple. Un exemple pratique, faire une soirée en tête-à-tête, passer un week-end en amoureux. Deuxième orientation, avoir des souvenirs exclusifs entre époux. Alors quand je parle exclusif, ça ne veut pas dire de poster des photos sur Instagram, sur Snapchat ou autre. Quand je dis avoir des souvenirs exclusifs, c'est exclusif. Des choses qu'il n'y a que l'époux et l'épouse qui sont au courant. Leurs petits secrets à eux. Il faut avoir des souvenirs exclusifs entre époux. Le collier, par exemple. L'histoire du collier, c'est exactement cela. Quand les compagnons ont vu le collier, ils ne savaient même pas c'était quoi, qu'est-ce que c'est. Mais il y avait ce petit secret. Il y a une histoire derrière ce collier que nous, on ne sait pas aussi. On ne connaît que l'apparence de cette histoire. Mais qui sait? Qui sait peut-être ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le prophète Sam qui le déposait autour du cou de Khadija et qui le fermait d'une certaine façon? Qui sait? Mais il y a sûrement quelque chose qui est du ressort des souvenirs exclusifs qu'il y avait seulement entre le prophète Sansem et Khadija. Et donc ça c'est aussi un appel à ne pas s'afficher, mais de garder plutôt quelque chose, l'amour, l'affection, vraiment secret entre un époux et une épouse. Et ça va permettre de se préserver hein, du mal extérieur.
Et en préservant,
troisième orientation,
on rend son couple plus fort. Je me permets de le préciser parce que parfois les gens se disent enfin parce que c'est quelque chose qu'on répète de plus en plus hein, cette importance de préserver son couple pour vivre heureux, vivons cachés, etc. Et parfois c'est une notion qui peut être difficile à comprendre pour certains, peut-être pour des plus jeunes qui n'ont pas vécu dans justement cette discrétion là. Puisque justement, quand ils sont arrivés, il y avait déjà les réseaux, il y avait déjà... Mais c'est vraiment pour aider à faire passer le message. Comprenons que plus on préserve ces moments-là, plus l'amour est fort. Plus on est fort aussi en soi. Vous savez, quand on donne trop à l'extérieur, on se vide beaucoup nous, en fait. Quand on préserve, on est plus costaud. Et on rend aussi le couple plus fort. C'était juste une petite parenthèse pour accompagner ton propos.
Très très bien Madina et on peut faire la parallèle avec le on peut faire un oui on peut par exemple citer la relation qu'on a avec Allah, l'amour qu'on a avec Allah, là où il va être le plus fort, c'est quand on est dans l'intimité avec Allah, quand on est tout seul devant Allah et qu'il n'y a personne d'autre, tout seul dans le noir face à la Qibla, devant Allah et qu'il n'y a personne qui nous voit, c'est là où l'amour il sera le plus fort. Autre orientation, troisième et avant-dernière orientation, retenir le meilleur et fermer les yeux sur le moins bien. Là, parmi les presque 3 heures là, qu'on a parcouru ensemble dans cette belle histoire, cette magnifique histoire, la plus équilibrée des histoires d'amour, on n'a jamais entendu du négatif. Jamais. Pourtant, c'est très bien que tous les couples, ils passent par des moments difficiles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on s'arrête sur sa relation avec ses autres épouses, quand il avait des co-épouses, il y a toujours des anecdotes de moins bien. Des petites disputes, des petites querelles, des choses qui n'allaient pas, elles ont été reprises parfois, les épouses du prophète, à l'intérieur du Coran. Hein. Mais Khadija, on n'a pas ça.
C'est vrai.
Et c'est là qu'on voit que cette histoire d'amour, elle est au-dessus de
c'est
tout.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce qu'il y a le fait de retenir que le meilleur. Il y a sûrement eu du moins bien. Ça arrive, mais on n'est pas au courant. Parce que ça a été tu. Par la volonté d'Allah, par le choix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi il faut toujours retenir le meilleur dans notre histoire d'amour. Et enfin, la dernière orientation, c'est s'entraider dans les moments difficiles. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Khadija, anha, ils se sont entraînés dans les pires moments de leur existence. Donc il faut s'entraider dans les moments difficiles, on va sûrement passer peut-être par des moments de diminution de biens, de santé, de personnes, il faut se soutenir, il faut s'entraider. On peut aussi très bien avoir des projets respectifs. L'époux a un projet, l'épouse a un autre projet, mais il faut s'entraider. Si l'un ou l'autre ne regarde pas le projet de son coépoux, sa coépouse, il ne va pas l'aider. Il n'y aura pas d'accompagnement, ça va même créer une distance. Il faut s'intéresser au projet de notre conjoint. Et il faut même s'investir, je vais dire, il faut même s'investir et ne pas être indifférent. Donc, la dernière orientation, s'entraider dans les moments difficiles. Et pour conclure, Madina, je rappelle à mes frères et à mes sœurs, surtout ceux qui... Là, le premier mot de fin, il y aura deux mots de fin. Le premier mot de fin, c'est pour mes frères et mes sœurs qui ont le souhait de se marier. Le pouvoir de l'invocation, mes frères et mes sœurs. Le pouvoir de l'invocation. Une invocation faite dans le dernier tiers de la nuit. Ça paraît simple, général, pourtant. J'appuie dessus. Parce qu'en vérité, rares sont ceux qui se lèvent à ce moment-là.
Bien sûr.
Donc je le répète. Levez-vous dans le dernier tiers de la nuit. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et je vais vous donner une petite doa spéciale. C'est la doa de ceux qui veulent se marier, nous disent les savants de l'islam, les héritiers du prophète, ils ont puisé dans le Coran. Et ils nous disent, c'est la doa que Moussa alayhi salam, il a fait juste avant de recevoir la demande en mariage. Il a dit, « O Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. » Ô mon Seigneur, je suis par rapport au bien que tu as fait descendre sur moi, faqir, pauvre. Et là, j'attire votre attention, parce que peut-être certains ne connaissent pas la doa, ils vont peut-être vouloir faire la prière de la nuit, dès ce soir, ils ne l'auront pas apprise. L'essentiel, c'est que quand on s'adresse à Allah, Azza wa Jal, on le fait avec un immense respect. Regardez Moussa, alayhi salam, dans sa doa ici. Il dit, « Rabbi, ô mon Seigneur, normalement, si on veut faire une phrase qui serait vraiment correcte, normalement on dirait « Rabbi inni faqir »« Oh mon Seigneur, je suis pauvre »« Lima anzalta ilayya min khayrin »« Oh mon Seigneur, je suis pauvre » par rapport au bien que tu as fait descendre sur moi. Mais lui dit « Oh mon Seigneur, je suis par rapport au bien que tu as fait descendre sur moi, pauvre. » Vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut éloigner le moment où il s'adresse à Allah, « Rabbi, mon Seigneur », il veut éloigner quelque chose de négatif. S'il dit « Rabbi, inni faqir »,« Oh, mon Seigneur, je suis pauvre », c'est comme s'il accuse Allah, Azza wa Jal. Non, regardez, l'immense respect, l'adab, la politesse. « Rabbi, oh, mon Seigneur, inni, je suis par rapport au bien que tu as fait descendre sur moi. » Et à la fin, il termine par le négatif. Faqir, il l'éloigne du mot Rabbi. Faqir. Voilà comment s'exprimer, voilà comment demander à Allah Azza wa
Jal. Et puis toujours mettre en avant, le mot de la fin. Pardon, oui. Mais toujours mettre en avant la richesse dont Allah nous dote malgré tout. Vraiment, c'est cette distance, comme tu le dis déjà, entre le terme faqir et Rabbi et le Rabb, mais c'est aussi le fait de se dire vous n'avez rien à voir en fait. C'est-à-dire que là, je suis pauvre, mais je sais que toi, tu donnes beaucoup en fait. Je sais que ça n'a rien à voir avec ta générosité, ça n'a rien à voir avec ce que tu es, en fait. Entre ma pauvreté et toi, il y a ça. Il y a le khayr. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça très, très beau.
Les prophètes, ils ont toujours une manière magnifique.
Ils ont le verbe. Hein.
De s'exprimer avec Allah. Ils sont sous l'effet du wahi, hein, de la révélation. Et le dernier mot de la fin, cette fois-ci, il est pour tous. Pour tous. Ceux qui sont mariés, ceux qui souhaitent se marier. Il y a cette parole qui est dans un hadith où le prophète s'en sème parlant de Khadija. Il va dire Inni qad ruziqtu hubbaha. Et certes, il m'a été accordé son amour, c'est-à-dire à Khadija. Mais le terme qu'il utilise ici, c'est ruziqtu, du terme risq. Donc il est en train d'indiquer le prophète s'en sème que l'amour, il fait partie du risque. Or, le risque, mes frères et mes sœurs, il a été déjà prédestiné par Allah Azza wa Jal. Donc, votre amour, si vous le cherchez, vous allez le trouver si vous en faites les causes. Parce que le risque, il faut faire les causes pour le trouver. Et votre risque ne pourra jamais vous échapper. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné cela en disant « Inni qad ruziqtu hubbaha ». il m'a été accordé comme subsistance son amour à elle, à Khadija. Et je terminerai sur cette parole-là.
C'est beau quand même. Hein. C'est-à-dire que son amour fait partie de son risque. Le risque, c'est quand même la, c'est la richesse, hein, les amis. C'est-à-dire que dans sa richesse, il y a l'amour de sa première épouse. Il faut qu'on médite dessus. Nous, aujourd'hui, quand on parle de richesse, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Pour la majorité d'entre nous, ce sera l'argent. Au mieux, pour certains, c'est la santé. Oui, c'est vrai, je suis riche de ma famille. Alors, je suis riche de l'amour de mon époux. Je suis riche de l'amour de mon épouse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à chacun d'entre nous de pouvoir un jour prononcer cette phrase avec sincérité. Inch'Allah, c'est tout ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous.
Amin.
Merci beaucoup Farid, je n'aurai pas d'autres mots de la fin parce que c'était parfaitement complet, c'était très beau et je suis ravie, je suis honorée d'avoir pu parler de ces illustres êtres en ta compagnie. On te remercie pour ton temps, pour tes recherches, c'est un cadeau très très précieux que tu nous as offert, merci beaucoup.
Je tiens aussi à te remercier, Madina, de m'avoir fait confiance, de m'avoir permis de m'exprimer et surtout de partager des moments de la vie de la plus belle des créatures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah t'en récompense grandement.
Amin, amin, amin. Ben, j'espère que ceux qui nous écouteront, vous avez passé un moment aussi agréable que nous. Je n'en doute pas, j'ose le dire. Je souhaite à tous une très très belle semaine. Farid, prends bien soin de toi et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve, fi amanillah.
Amin, jami' al-muslimin, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le-moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça, c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.